Lucas Bellevaux, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes cinéaste, on vous doit La raison du plus faible, Rap 38 minutes et une trilogie dingue dont on va reparler. Mais là, actuellement, à l'affiche depuis mercredi, votre film Chez nous, film qui a suscité une vive polémique avant même sa sortie avec les protestations du Front National qui s'étaient reconnues. Ça raconte l'histoire d'une jeune infirmière du Nord, Émilie Dequesne, dans une ville qui ressemble beaucoup à Hénin-Beaumont, candidate d'un parti qui ressemble beaucoup au Front National. Quelle était votre idée de départ? Pourquoi avoir fait ce film?
L'idée de départ, c'est de s'interroger sur le vote FN en milieu populaire. Je tournais avec mon film précédent, avec Émilie Dequesne déjà, et on tournait déjà dans cette région-là. Et on tournait en période électorale, c'était les municipales. Et à l'époque, le FN dans les sondages était à 30 ou 40%. Et tous les gens avec qui on travaillait, qui étaient les gens du coin, étaient tous sympathiques, agréables, travailleurs. On s'entendait très bien, les figurants, les techniciens du coin qui travaillaient avec nous. Et je me disais, il y en a quand même 3 ou 4 sur 10 qui votent pour le FN. Et pourtant, ils sont sympathiques. Et pourtant, je me sens proche d'eux. Et ils sont proches de moi, objectivement.
Je reste dans ce « et pourtant ». La première partie n'est absolument pas un film anti-FN. Émilie Dequesne est extrêmement attachante, elle est sincère, elle est travailleuse, elle est généreuse. Tout le monde la connaît et l'adore, et on n'a qu'une envie, c'est de voter pour elle.
Mais bien sûr, et c'est la tactique du FN partout, c'est de se dédiaboliser, comme on dit, c'est donc de montrer patte blanche, de présenter un visage acceptable. C'est de présenter ou de proposer des visages sympathiques, avenants et à qui on ne peut rien reprocher.
Et à qui on fait faire des couleurs. On la teint en blonde.
Oui, parce que c'est marrant parce qu'on l'a pas mal reproché, ça. On me dit ouais, c'est caricatural. Ça. En fait, quand on voit les leaders femmes politiques d'extrême droite en Europe, à 90%, elles sont blondes et elles sont pas toutes blondes naturellement.
Il y a un site américain qui a recensé les 40 plus belles femmes journalistes. Sur 40, il y a 37 blondes.
Oui, alors qu'elle représente 5% donc de la population blanche.
C'est le travail que vous dénoncez.
Absolument, c'est des messages subliminaux qui sont envoyés.
Parfois, on est obligé d'adhérer quand on voit la critique du slogan de Chirac, la fracture sociale qui n'a rien donné, le slogan de Sarkozy, travailler plus pour gagner plus qui n'a rien donné, le slogan de François Hollande, mon ennemi c'est la finance qui n'a rien donné. C'est extrêmement consensuel cette critique.
Oui, mais moi aussi j'ai envie de renverser la table.
Ouais.
Et en même temps, je pense qu'il y a des principes démocratiques auxquels on ne peut absolument pas déroger. Or, ce parti n'est pas républicain. Et il l'a prouvé au cours des 40 dernières années régulièrement. Donc quand on veut renverser la table, on renverse la table avec un parti républicain.
Télescopage avec l'actualité, il y a une séquence dans laquelle on voit un cadre du parti qui explique à ses troupes les mots à utiliser et à ne pas utiliser sur Twitter. Et il dit « pas de bamboula ». Il le cite, vous l'avez tourné il y a plusieurs mois. Or, là, il y a eu un syndicaliste policier qui a dit récemment « Bamboula, ça reste convenable, vous en pensez quoi ?»
J'étais scandalisé à la fois par le terme, évidemment, et l'idée qu'un syndicaliste policier puisse dire ça, c'est terrible. Qu'on respecte les policiers, c'est la moindre des choses, mais les policiers doivent respecter les citoyens, même jeunes, même ceux des quartiers.
Je reste dans la réalité. Steve Briouat, le maire d'Hénin-Beaumont, où est censé se dérouler l'histoire, a injurié votre comédienne avec un tweet. « Pauvre Marine Le Pen », a-t-il écrit, caricaturé par ce pot à tabac de Catherine Jacob.
Oui, ça donne une idée du niveau de réflexion politique.
Il y a une séquence vidéo très forte. Je vais vous dire que je m'y suis laissé prendre. Un trucage. La tour Eiffel, percutée par un avion, est remplacée par le minaret d'une mosquée. Est-ce qu'elle a été tournée par vous ou est-ce que vous l'avez attrapée sur un site djihadiste ou autre site?
Non, on l'a fabriquée nous-mêmes. L'idée, c'est que c'est le gamin qui la fabrique pour son site.
Ouais.
Mais on s'est inspiré, évidemment, de ce qu'ils font sur les sites djihadistes.
Mais alors, à un moment donné, on croit qui regardent des vidéos djihadistes, et puis on se rend compte que c'est des vidéos anti-djihadistes.
Oui, c'est la radicalisation dans les deux sens. Ça va avec tous les discours qu'on entend depuis quelques années, et qui, quelque part, poussent à la guerre sainte. Le discours de Zemmour qu'on a entendu pendant un an et demi, c'était ça, c'était un appel à la guerre sainte, à la guerre des civilisations, comme disait George Bush.
Lucas Bellevaux avec nous sur France Info, on se retrouve tout à l'heure. Chez nous, c'est le titre du dernier film du cinéaste Lucas Bellevaux qui est sur les écrans depuis mercredi et dans le studio toute la journée. Étrangement, vous avez commencé dans le métier par être comédien, mais en plus sans jamais avoir pris aucun cours.
Si, j'ai pris des cours, pas longtemps.
Combien de temps?
Un an à peu près. Mais j'ai eu la chance extraordinaire de commencer à travailler tout de suite. Je suis arrivé à Paris, j'arrivais de ma campagne belge. Mmh. J'étais très jeune, je faisais encore plus jeune que mon âge. Et à l'époque, il y avait du travail pour un jeune acteur, à la télé notamment.
Alors, je voudrais parler d'un film absolument incroyable que vous avez réalisé. Je ne l'ai pas vu, je l'ai découvert, je m'en veux, je veux trouver les DVD. Vous avez fait trois films qui fonctionnent ensemble. Un couple épatant, Cavale et Après la vie. Ça peut même se lire comme ça, Un couple épatant, Cavale, Après la vie. Trois films tournés en même temps, dans trois genres différents, une comédie, un polar, un drame, qui se déroulent tous dans la même journée, la même ville, Grenoble, et dont les personnages passent d'un film à l'autre, la chronologie étant toujours respectée. Comment avez-vous eu cette idée de dingue ?
Je l'ai eu sur mon premier film, justement, en me posant des questions sur le statut des personnages secondaires, comment les faire travailler. Parce que je suis arrivé à la conclusion qu'un personnage secondaire, c'est le personnage principal d'un autre film qui croit celui-là. Puis je me suis dit, mais c'est dans une tradition un peu balzacienne, il y a beaucoup ça chez Balzac, où un personnage qui ne fait qu'apparaître dans une nouvelle devient le héros du roman suivant. Et donc là, je me suis dit, il faut que je fasse ça au cinéma. Et une fois que j'ai commencé à l'écrire, je me suis dit, mais au cinéma, il y a la question du genre qui peut se poser aussi. Donc, élargissons le propos, parlons du genre. Et puis après, des contraintes, je suis un peu oulipien dans mon genre, et donc je me suis mis des contraintes, unités de temps, de lieu.
J'avoue, je les ai pas vues. Dans quel ordre faut-il les regarder ?
Il faut les voir dans l'ordre de la phrase composée par les titres, parce qu'il y a aussi une progression dramatique d'un film à l'autre.
Donc, Un couple épatant, Cavale, Après la vie. En 2007, vous aviez tourné Les Prédateurs, qui parlait de l'affaire Elf et du financement par la France de certains régimes africains. Et vous dites que ce film n'aurait jamais pu être tourné par le service public.
Oui, parce que le service public, il est public, il est financé par de l'argent public essentiellement, et qu'il y avait encore à l'époque une certaine frilosité, qui est en train de tomber maintenant.
Quand on regarde Envoyé spécial, c'est de l'argent public, et pourtant, ils y vont.
Oui, mais il y a 10 ans, ils y allaient moins, probablement. Et puis, c'est le côté... ça fait moins peur, finalement, l'information que la fiction. C'est une histoire très étrange, les Prédateurs, parce qu'il y a eu, finalement, très peu de pression, alors que c'était un sujet explosif. Et qu'on citait les noms des vrais protagonistes. On voyait Chirac, Balladur, Mitterrand...
Et Roland Dumas. Vous avez aussi tourné un film sur l'enlèvement du baron Empain, ça s'appelait Rapt. C'était en 2009 avec Yvon Attal. Vous avez vraiment refusé de le rencontrer avant ?
Ah oui, 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 bien sûr.
Ah, pourquoi bien sûr ?
Mais il fallait. Parce que...
Ah ben en général, les gens que je reçois à ce micro et qui font des films, la première chose qu'ils font, c'est aller voir les impétrants, si
oui,
j'ose
oui.
dire.
Mais parce que j'avais décidé de décaler dans la période. C'est inspiré de l'histoire du baron Empain. Je voulais être extrêmement précis et juste sur ce qu'il avait raconté, ressenti pendant cette histoire-là. Ça, c'était important. En revanche, je voulais pas faire un film d'époque et je voulais pas me tenir stricto sensu à la réalité. Or, si je l'avais rencontré, j'aurais dû lui faire lire. Il m'aurait dit « Ah oui, mais ce jour-là, c'était pas comme ça, etc. » Et je voulais garder une liberté fictionnelle.
Et depuis, vous l'avez rencontré ?
Non, on s'est parlé au téléphone.
Une phrase qui m'a étonné, vous dites « Je me suis toujours senti réfractaire à l'autorité ».
Oui.
Comment vous faites sur un tournage pour commander, pour diriger ?
Vous savez, c'est l'histoire du cornac et de l'éléphant.
Il croit que c'est lui qui dirige, mais c'est l'éléphant qui va où il veut.
Non, c'est qu'il faut...
Non, les films se font pas tout seuls sans le metteur en scène.
Non, non, il faut une bonne entente. C'est-à-dire que je suis pas un chef. Je suis un auteur, donc je demande aux gens d'aller là où je veux, mais on travaille aussi ensemble, on s'écoute, il faut du respect mutuel. Mais je pense que l'éléphant est plus fort que le cornac et qui fait que ce qu'il veut bien faire, l'éléphant. Donc voilà, faut savoir parler aux éléphants.
Lucas Bellevaux avec nous sur France Info, on se retrouve tout à l'heure. Le cinéaste Lucas Bellevaux avec nous, dont le film Chez nous est en ce moment sur les écrans. Vous venez de Namur en Belgique ? Enfin, je veux dire, c'est votre enfance.
J'y suis né, je suis plus de la campagne.
Quand vous aviez 6 ou 7 ans, à la campagne, vous avez raconté que vous pouviez bagnoder des heures dans la campagne sans les parents.
Oui, 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 c'était une...
Totale liberté.
Totale liberté. J'avais un gros chien que j'allais promener pendant des heures et j'adorais ça.
C'est vrai que vous étiez un cancre ?
Je suis devenu un cancre à partir du collège, à peu près.
Vous avez dit, j'étais un cancre, je n'ai pas fait d'études.
Oui, mais c'est vrai.
Je vais vous dire ce qui m'a étonné. Une question du Figaro qui vous dit, vos parents étaient instituteurs, dans quelles valeurs vous ont-ils élevé ? Et vous avez répondu, vous vous souvenez ce que vous avez dit à cette époque ? Le sens du travail. Et je me dis, mince, si c'est le sens du travail, il faudrait au moins bosser en classe.
Oui, oui, mais j'y arrivais pas. J'y arrivais pas et je pense que c'est un rapport curieux à l'autorité. En revanche, j'adore travailler, je travaille énormément sur mes films et pas que sur mes films. Enfin, je travaille beaucoup, ouais.
Et vos parents étaient abattus ?
Un peu, oui, oui, oui.
Je vais faire une petite explication de texte, ça va vous rappeler quand vous étiez en seconde ou en première. Mmh. Vous avez dit, c'était au journal La Vie en 2007, « J'aurais pu apprendre d'autres choses, le flamand par exemple, que je ne parle pas. Cela ne m'aurait sans doute servi à rien, mais par rapport à la Belgique, aujourd'hui, je me sentirais mieux. » C'est une phrase totalement incompréhensible pour le français que je suis. Expliquez ce que vous voulez dire par là.
Parce que la Belgique est un pays en danger. Et c'est vrai que quand j'étais jeune, en Wallonie, on n'avait pas envie d'apprendre le flamand. Or, les langues font le ciment d'un pays. Et moi, j'aime bien l'idée de ce pays fait par de deux communautés qui pourraient s'entendre. Et avec le temps, ces deux communautés se sont séparées. Et si les flamands ont pas mal de responsabilités dans l'histoire, les wallons ont au moins celle de ne pas avoir appris le flamand et de pas... Et quelque part, c'est un manque de respect, je pense.
C'est vrai que vous avez fugué à 17 ans pour venir à Paris ?
Oui.
Et alors, j'arrive pas à croire ça. Est-il vrai que quand vous avez déboulé à Paris, vous disiez bonjour aux passants que vous croisiez dans la rue ?
Le soir. Le soir, quand je rentrais, j'étais logé chez un copain à Clichy. Et quand je rentrais le soir, j'avais 500 ou 600 mètres à faire à pied. Et il n'y avait pas nécessairement beaucoup de monde. Et ouais. Donc, quand je croisais les gens sur les trottoirs, je faisais comme dans mon village en Belgique, je disais bonsoir. Et les gens avaient peur.
C'est vrai que vous avez fait votre service militaire ?
Oui.
Le service militaire belge ?
Belge, dans l'aviation.
C'est pas vrai, vous faisiez quoi ?
Je tenais le bar, j'ai travaillé en cuisine.
Oh, donc, c'est un sacré job militaire, ça, tenir le bar.
Ouais.
Non, c'est pas vrai.
Mais si, je vous assure.
Vous n'avez pas fait un an à tenir le bar ?
J'ai fait 10 mois. 10 mois. Non, j'étais d'abord aux cuisines pendant 2 mois à éplucher les pommes de terre.
Et après ?
Et après, le bar, parce qu'entre-temps, j'avais été nommé au César et ça a changé mon statut de militaire.
Est-il vrai que quand vous étiez enfant, vos parents vous laissaient voir les films à la télé, mais vous empêchaient de voir le journal télévisé ?
À l'époque, le journal télévisé était parfois extrêmement plus violent qu'aujourd'hui. La guerre du Vietnam, le Biafra, tout ça, les images arrivaient
On montrait les morts, maintenant on ne les montre plus.
Non seulement on montrait les morts, mais on montrait des exécutions. Je me souviens des images au Vietnam d'un type qui met une balle dans la tête d'un autre et on voyait ça enfant. C'est marrant, je ne me souviens pas qui m'est interdit de regarder les infos, mais peut-être je l'ai raconté.
Vous l'avez raconté à Libé en mai 2012. Est-il vrai que vous ne parlez jamais pour rien dire ?
Non.
Bon, alors peut-être vous êtes peu disert avec votre producteur parce que c'est lui qui a dit ça, Patrick Sobelman. Il a dit Lucas Bellevaux ne parle jamais pour rien dire.
Ah, dans le travail peut-être.
Ouais.
Oui, dans le travail. Mais si, parfois je raconte des blagues.
Bah, c'est pas pour rien dire, des blagues, ça fait rire. Est-il vrai que si un jour vous tournez un remake, ça sera celui d'un mauvais film ?
Oui.
Pourquoi ?
Parce que les bons films, c'est pas la peine de les refaire. Je pense que c'est un film est réussi, il est indépassable, c'est bon.
Quel mauvais film vous aimeriez refaire ?
Alors il y a un très mauvais film des années 70 qui était une adaptation d'un roman de Jules Verne qui s'appelle Le phare du bout du monde et que j'adorerais faire, oui. Et j'ai essayé, j'y suis pas arrivé.
Les producteurs qui nous écoutent savent où vous trouvez. Merci beaucoup Lucas Bellevaux d'être venu nous voir.
C'est moi qui vous remercie.